La distance, le cheval qui résiste envers et contre tout sur les longues distances, 100 km parfois, vous disait Jacqueline Thévenet, eh bien, c'est, je crois, tout à fait vrai. Nous avons, dans un premier temps, expérimenté le fait de faire des journées de l'ordre de 5-6 heures de cheval, souvent au pas, parfois au trot, quelques petits galops, jamais assez pour nous, évidemment. C'est nous autres qui sommes cavaliers d'occasion et qui ne rêvons que de grands de galopade. Évidemment, parfois c'est un peu difficile de respecter le rythme de la longue distance que forcément il faut avoir en randonnée à cheval. Mais on a remarqué qu'il tenait très très facilement cette distance-là, même parfois avec les cavaliers un peu néophytes que nous sommes. Quant à notre semaine de retour, où cette fois-ci nous avons vraiment adopté un rythme, je crois, de déplacement, tout à fait le rythme des nomades, qui eux parcourent réellement des distances, sont pas seulement en balade et doivent avancer. Donc le trajet se fait plutôt tout le temps au trot et au galop. Comme on me faisait remarquer à un moment donné, mais tu te rends compte, ça fait déjà 21 minute que nous galopons. C'est vrai que ça paraissait un peu incongru de regarder sa montre, mais par rapport au galop habituel qu'on peut faire dans nos régions, il y a toujours une barrière, une route, une branche ou quelque chose qui nous empêche de vraiment s'élancer dans les grands espaces. Être au galop depuis plus de 20 minutes, c'était effectivement une chose étonnante qui pouvait donner envie à celui qui en avait une de regarder sa montre. Et puis, alors, dans ce parcours-là, eh bien, on s'est rendu compte que parfois, les chevaux pouvaient caler un petit peu. Mais ils avaient eu dans les bottes, effectivement, entre 60 et 70 km de la journée. Nous aussi, cela dit. Et je peux vous dire que pour les genoux, en ce qui me concerne, ce fut une chose pas évidente du tout. Et il faut vraiment tenir le coup. Et alors, si les chevaux, parfois, ont tendance à montrer une certaine fatigue, et il suffit en cela de simplement faire comme Gengis Khan et Jacqueline Thévenet nous le disaient, il suffit de changer de cheval. Nous en avions 10 à notre disposition, nous étions 4, donc il était facile de changer de cheval. Eh bien, si on peut changer le cheval, on change pas tellement la bête qui la monte, en l'occurrence l'être humain. Et nous, eh bien, en tout cas moi, parfois j'aurais bien aimé, mais il faut avouer que nos petits guides, Oldo, Bolto et André, étaient là pour nous bichonner autant que les chevaux, si c'est pas plus, pour nous faire résister et remonter en selle quand il fallait, sans faillir. Il y a... Nous l'avons constaté, une façon particulière de monter, comme dit Jacqueline Thévenet, les Mongols montent haut sur les étriers, souvent debout, dressés sur leurs étriers, alors il faut apprendre à faire cela. On est aidé en cela par une selle un peu particulière qui vraiment est loin d'être confortable. Alors là, je trouve que Jacqueline Thévenet est un petit peu douce avec le descriptif qu'elle fait des objets qui servent à monter sur le cheval. Parce qu'elle parle d'une selle de bois, oui, ça c'est juste, mais en parlant du mongol, elle dit qu'il glisse un double tapis de cuir et de feutre pour ne pas blesser l'animal. C'est l'effort que font les nomades, bien sûr, mais ça ne rend pas, hélas, la selle très tendre pour ce qui concerne nos fesses à nous et notre peau à nous. Et il faut bien avouer qu'au début, on trouve que cette selle est extrêmement dure. Mais avec le temps, on lui trouve toutes sortes d'avantages parce qu'elle a vraiment une forme particulière qui fait que par rapport à cette monte debout, eh bien, elle est très utile. Et quand on se retrouve sur une selle ici en Europe, on a l'impression qu'on est vraiment un sac de pommes de terre sur le cheval et qu'on ne sait plus rien faire tellement le changement est grand. Alors, Jacqueline Thévenet dit aussi que les Mongols ont d'incroyables marques de prévenance à l'égard de leurs chevaux. Je ne suis pas aussi enthousiaste qu'elle pour ce que j'ai vu, je vous l'ai dit. On sent que le cheval est un animal qui accompagne le quotidien, il est là tout le temps. Ça pose un problème quand l'un d'entre eux meurt. On n'a pas très bien compris si c'est sentimentalement ou justement au niveau de la valeur de l'animal qui fait la base du troc, de l'échange dont vivent les nomades. Mais en tout cas, toutes sortes de prévenances, je ne suis pas très très sûre hein, que ce soit vraiment le cas. En tout cas, si on fait attention qu'ils aient à manger, qu'ils aient à boire, ça c'est sûr, qu'on fait attention comme on les selle, il n'empêche que bon, j'ai pas eu la sensation qu'on les dorlotait tant que ça. Au contraire, ils doivent mener leur vie, ils doivent se débrouiller tout seuls et c'est aussi ce qui fait certainement l'endurance et la force de ces chevaux, c'est qu'ils sont amenés à se débrouiller et à affronter les éléments. Ces mêmes chevaux qui en été gambadent et se baignent dans les rivières doivent parcourir les distances sur les terres glacées et enneigées de la steppe avec parfois moins de 35 degrés. Donc ils sont prêts à tout et ils n'ont pas besoin qu'on les dorlote, comme décrit un petit peu Jacqueline Thévenet dans son livre. La cravache, alors elle dit, elle sert plutôt à battre l'air, c'est vrai. Le dachour, qui est un bout de bois avec ensuite attaché une lanière de cuir, on le sent bien et même souvent, on pourrait presque dire, un instrument de la fierté du cavalier. Plus qu'un outil réellement utile, parfois quand même, hein, quand l'animal en fin de journée n'a plus tellement envie d'avancer, on aura tendance à s'acharner pour qu'il avance, ne voulant pas admettre qu'il est réellement fatigué, qu'il est temps de s'arrêter, peu importe où on se trouve dans la steppe. Je fais un petit clin d'œil à Bolto et à Georges. Mais les trois quarts du temps, c'est vrai, on l'utilise plus comme un instrument de fierté, à la main, accroché à la main, avec les rênes de l'autre côté, et ça fait toute l'apparence magnifique du cavalier sur son cheval. Voilà, alors pour les chevaux, c'est un peu ce que j'ai partagé. J'aurais encore beaucoup de choses à vous raconter, mais je crois qu'il est temps que nous parlions des chèvres et des moutons encore un petit peu. Et puis peut-être que pour aujourd'hui, on referme cette page de mon voyage en Mongolie, les animaux et puis les gens, ces animaux qui vivent intimement liés sur cette steppe magnifique de la Mongolie. L'instrument que vous entendez, c'est justement une vielle cheval. C'est comme ça qu'elle s'appelle, Morin Hur. Et c'est un instrument qui est triangulaire, c'est comme un violon sur lequel on joue et qui a le manche de l'instrument comme une tête de cheval. Il n'y a que deux cordes à la vielle cheval. Elle peut être triangulaire ou rectangulaire, mais de forme un peu trapézoïdale, et est essentiellement jouée par les hommes. Le mouton, second museau chaud du Mongol, est l'animal le plus répandu, non seulement dans le monde pastoral en général, mais en République populaire de Mongolie, où l'on en dénommait 14 millions en 1980. Le mouton boit 6 à 7 litres d'eau par jour, y compris la rosée ou la neige. Sa viande est la plus prisée de toutes parce que bien grasse, et elle tire sa saveur des herbes parfumées qui constituent la pâture. Celle que l'on repère tout de suite, c'est l'armoise, mais il y a aussi de l'ail, de la sauge, de l'oignon sauvage. Sa résistance et son imperméabilité grâce aux soins permettent de fabriquer avec sa toison une laine appréciée pour la confection du feutre. La chèvre de Mongolie, voisine de celle du Cachemire, est couverte de longs poils sous lesquels se cache un fin duvet. Plus long est le poil, plus abondant est le duvet. Celui-ci, jamais tendu, se dégage de lui-même lorsque l'on peigne l'animal. Mis à part cette précieuse ressource connue dans le monde entier, le Cachemire, la chèvre est plutôt considérée comme la vache du pauvre. Une ou deux bêtes suffisent à approvisionner en lait et en fromage toute une famille. Elles prennent moins de place qu'une vache et se contentent de pâturages plus médiocres, de feuilles ou de branches par exemple. Leur viande n'est pas assez grasse au gré des Mongols, mais leur peau donne un bon cuir et leurs cornes servent de porte-manteau et de porte-tout dans la yourte. Alors les chèvres et les moutons, effectivement, il y en a beaucoup, beaucoup partout autour de nous chaque fois qu'on arrive dans un pâturage et dans un proche d'un campement de nomades. Et je vous ai déjà parlé de toutes les activités qui sont liées à ces animaux, que ce soit donc les hommes et les femmes qui se précipitent pour séparer les petits de leur mère le matin, que l'on les traie le soir, qu'on les tonde. Effectivement, tout ça fait partie vraiment du quotidien, de tous les jours, et la nourriture bien évidemment, comme je vous le racontais, que ce soit le yogourt magnifique, la crème, qui est vraiment une double crème digne de la meilleure des crèmes de gruyère, que l'on mange souvent avec, en lieu et place de cuillère, une tranche de fromage de chèvre, qui à l'origine, lorsqu'il est frais, ressemble un peu à de la mozzarella, mais que les nomades font sécher sur le toit de leur yogourt au soleil et qui devient dur comme de la pierre et que l'on mâchouille après tranquillement. Ça n'a pas beaucoup de goût. En soi, c'est pas très agréable à manger, mais lorsque on vous l'utilise comme cuillère pour manger la crème et qu'il ramollit et que la crème dessus, c'est absolument délicieux. Et puis, il y a ces animaux, il y a quelque chose de rigolo, surtout les chèvres, c'est qu'elles servent d'animal de compagnie. Tout comme le chien chez nous peut servir d'animal de compagnie aux enfants, eh bien, des petits cabris souvent servent d'animal de compagnie aux enfants. Alors que le chien, lui, au contraire, semble un animal assez rejeté et méprisé, à qui on donne beaucoup de coups de pied et on lance beaucoup de pierres, à tel point qu'ils sont extrêmement agressifs à l'égard des êtres humains et on comprend lorsqu'ils subissent souvent ces mauvais traitements-là. Et puis, toujours d'immenses troupeaux qui se déplacent et qu'on voit poursuivis par l'homme ou la femme, très souvent la femme qui va chercher les moutons ou les chèvres à dos de cheval, toujours. On ne fait pas un centimètre à pied, je crois qu'il faut bien que ce soit clair pour vous. Et nous n'avons qu'à nous conformer à ce mode de déplacement. Ça, j'ai oublié de vous dire en parlant des chevaux. On ne se déplace pas à pied. Et lorsque, comme moi, on a l'idée complètement incongrue pour se dégourdir les jambes et s'allonger les muscles qui ont été pliés pendant plusieurs jours d'affilée, d'aller marcher sur une de ces petites collines avoisinantes que eux, ils appellent montagne, eh bien vraiment, vous avez l'air de quelqu'un d'absolument insensé. Mais qu'est-ce que tu allais faire en haut de cette montagne? Ça semble vraiment insensé. Lorsqu'aussi, on a imaginé à un moment donné d'aller voir à quoi ressemblait l'unique bâtiment en dur que nous avions rencontré dans la steppe, que Chuck nous avait dit être un monastère de femmes. Ça m'avait donc particulièrement intriguée. Il s'est avéré en l'occurrence que, bien évidemment, lorsque nous sommes approchés, ce n'était pas un monastère de femmes. Nous voulions nous y approcher à pied et Bolto André nous a regardé avec des yeux incroyables en disant mais non, attends. Et il est allé chercher nos chevaux et pour parcourir 300 mètres, nous avons pris nos chevaux. Nous sommes arrivés devant le bâtiment. C'était un bistrot. Alors l'image évidemment classique du western s'est imposée. Nous avons attaché nos chevaux à la barre de bois qui était devant le bistrot, bu notre verre, mangé nos bousses, qui ce sont ces petits raviolis avec de la viande de mouton à l'intérieur cuit à la vapeur. Et puis, lorsque le soleil était retombé, nous sommes remontés sur nos chevaux pour reparcourir les 300 mètres qui nous séparaient de notre tente. Nous étions allés au bistrot à cheval. Et c'était une grande première dans mon existence, je peux vous l'assurer. Et puis, il y a encore quelques images importantes avec les chèvres et les chevaux et les animaux. Une dernière peut-être à vous dire à propos de chèvres. On vous disait la chèvre du Cachemire, une des grandes richesses de la Mongolie, sont le premier produit exporté. Eh bien, on en trouve, ça ne court pas les rues. Les gens ne portent pas eux-mêmes des pulls en cachemire, je peux vous l'assurer. Comme toujours, les richesses des gens ne restent jamais pour les gens. Ils sont toujours vendus ailleurs. On en trouve, par exemple, à l'aéroport. Vous pouvez acheter des pulls de coupe assez belles, au prix de 100$. Mais ça, dans vraiment les magasins soit de l'aéroport, soit le magasin d'État, qui est le grand supermarché type Grand Passage, que vous trouvez au cœur d'Oulan-Bator, qui sert de point de repère aux étrangers, aux rares étrangers que nous étions. C'était notre point de rendez-vous pour nous retrouver. Il y a au moins 4 étages de ce magasin, dont un consacré aux vêtements en cachemire. Et là, bon, pour un prix qui est vraiment qui défraye la concurrence par rapport à l'Europe, puisque c'est quasi la moitié du prix que ce qu'on peut payer en Europe, eh bien certains n'hésitent pas à dépenser plus de 2 000$ pour se ramener des pulls du cachemire de Mongolie. On se demande bien ce qu'ils vont faire d'une quantité pareille de vêtements lorsqu'ils seront rentrés en Suisse. Mais enfin bon, chacun sa façon de voyager. Ça, c'était pour les chèvres et les moutons. Et dernière image que j'avais envie de vous faire partager à propos des chevaux, eh bien, c'est la fameuse ourga. Jacqueline Thévenet vous parle de l'ourga en disant c'est une longue perche de saule, au bout une boucle de cuir qui n'est pas coulissante. Elle sert bien évidemment à attraper les bêtes. Les cavaliers et cavalières sont sur leurs chevaux et ils rattrapent les bêtes, dont soit qu'ils s'égarent, soit qu'ils veulent reprendre du troupeau, que ce soit chevaux, chèvres ou moutons. Il faut être extrêmement habile, d'abord parce que cette perche est immense, elle mesure au moins 4-5 mètres de long. C'est assez encombrant lorsqu'on est à cheval. Et puis les bêtes que l'on poursuit, souvent ils vont aussi vite que vous-même, puisqu'on attrape les chevaux courent aussi vite que le cheval sur lequel vous vous trouvez. Je dis vous, c'est un grand mot, sur lequel il se trouve. Et rattraper un cheval avec l'ourga est une chose qui est très difficile. Et nous avons regardé Médusée souvent Bolto s'intégrer à la tâche des nomades qui nous accueillaient et lui-même faire preuve d'une maîtrise incroyable à attraper les animaux avec l'ourga. Alors l'ourga, c'est d'abord un geste, un outil magnifique. C'est un geste, c'est un savoir magnifique. Mais c'est aussi tout à coup, non seulement ce que racontait Jacqueline Thévenet, mais ça s'est rapproché de la seule image de Mongolie que j'avais avant de partir et qui m'a certainement permis de partir, donner envie de partir dans un premier temps. C'était le film qui porte justement le titre Ourga de Mikhail Kov et qui nous parle de ce Russe qui un jour s'endort au volant de son vieux camion et dévale la petite pente qu'il y avait entre sa piste et le fleuve, dans le fleuve dans lequel son camion tombe. Il n'arrive évidemment pas à l'en sortir lui-même. Il va chercher de l'aide dans la yourte qui est un petit peu plus haut. Et là, il commence un grand périple de vie, de partage et de découverte et de surprise entre cette famille mongole et cette immigrée russe, parfois assez envahissant, puisque beaucoup de soviétiques se sont à un moment donné installés en Mongolie. Et il y avait des paysages magnifiques. Et l'ourgas était bien sûr très présente, à la fois dans des scènes de la vie quotidienne. Et aussi, cette histoire magnifique, c'est que quand l'homme et la femme ont envie d'aller se retrouver dans la steppe, eh bien, il suffit qu'ils plantent l'ourga dans le sol et personne ne viendra les déranger. J'ai appris en Mongolie même que le même geste est effectué lorsque quelqu'un est mort dans la steppe. Et la tradition veut qu'on enterre les gens directement dans la steppe. Et souvent, on plante l'ourga à cet endroit-là et les gens ne s'approchent pas, sachant qu'il y a là une tombe, un corps d'une personne décédée. Moi, j'ai vécu l'ourga aussi d'une autre façon qui m'a beaucoup surpris parce que ça s'est passé qu'une seule fois. Et c'était si surprenant que j'ai envie de vous le faire partager. Nous étions accueillis dans un campement au milieu du jour, 3-4 heures de l'après-midi. Il y avait beaucoup de monde dedans. Tout le monde était venu voir à quoi nous ressemblions. Les gens posaient plein de questions à Bolto et André qui essayaient de répondre, mais on sentait qu'ils étaient embarrassés quelque part. On voyait, on devinait leur gêne et il devait y avoir des questions étranges, bizarres par rapport à l'habitude nous concernant mon compagnon et moi qui faisions le parcours avec Bolto et André. On les sentait gênés, il y avait vraiment une atmosphère un peu particulière dans ce campement-là. C'était bien la première fois qu'on se rendait compte de cela. Ça avait l'air, la yourte avait l'air très modeste, mais par contre, à l'extérieur, des troupeaux de chevaux gigantesques, comme jamais on en avait rencontré jusque-là. Et puis, au moment de remonter sur nos chevaux et nous regarder avec des drôles de yeux, ça c'était assez souvent d'ailleurs, parce que les Mongols sont toujours très intrigués de voir que nous étions sur nos chevaux, sûr que nous ne savions absolument pas aller sur ses chevaux, une fois qu'ils nous voyaient partir ou quand ils avaient su que nous avions chevauché entre 7 et 8 heures, voire 10 heures par jour. Alors là, c'était au contraire l'admiration et ils nous tâtaient les cuisses pour savoir comment on avait résisté autant de temps que ça, assez fiers de nous et nous étions fiers qu'ils soient fiers de nous, en tout cas moi. Et alors là, un regard plutôt vraiment assez moqueur comme ça. Et au moment où j'allais pousser mon cheval pour partir, un de ces jeune homme qui nous regardait a mis son ourga autour de mon cou. Je dois dire que j'ai vraiment pas apprécié du tout. J'ai eu une drôle de sensation parce que je n'avais jamais rencontré ce lien jusque-là. Il n'y avait jamais eu de rapport de la sorte. Alors peut-être que moi, c'est moi qui n'ai rien compris. Peut-être qu'ils avaient juste envie de rigoler. Mais quand même, je trouvais ça un geste assez symbolique. C'était pour terminer cette deuxième partie de mon carnet de route, regard à travers Mes yeux de femme sur la Mongolie, ce carnet de route au féminin confrontant un texte écrit par quelqu'un sur le pays que vous avez visité et votre regard de voyageuse, aujourd'hui le mien, sur la Mongolie. Alors le texte était écrit par Jacqueline Thévenet, Les Mongols de Gengis Khan est d'aujourd'hui, publié aux éditions Armand Collin. Et c'était un deuxième volet, je vous en proposerai encore un troisième qui raconte plus particulièrement la place des femmes dans la yourte et dans la vie quotidienne en Mongolie. Mais tout de suite, eh bien, nous partons dans un autre monde, une autre chanson, c'est Barbara.
Je ne sais pas dire je t'aime, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne peux pas dire je t'aime, je ne peux pas, je ne peux pas. Je l'ai dit tant de fois pour rire, on ne rit pas de ces mots-là. Aujourd'hui que je veux le dire, je n'ose pas, je n'ose pas. Alors j'ai fait cette musique qui mieux que moi te le dira. Je sais tes yeux, ton rire, ta voix. Je sais le feu quand tu me touches. Et je sais le bruit de ton pas. Je saurais sur moi des vêtus entre mille. Quelle est ta main nue? Mais simplement dire je t'aime, je ne sais pas, je ne sais pas. C'est trop bête, je vais le dire. C'est rien, c'est de petits mots-là. Et j'ai peur de te voir sourire. Surtout ne me regarde pas. Tiens, au piano, je dirais amoureux du bois. Au piano, je pourrais le dire. Écoute-moi, regarde-moi. Je ne peux pas. Je ne sais pas.
Barbara dans Remue Ménage, onde femme, Radio Zone 93.8. Alors je vous dis Bayata, ça c'est au revoir en mongol. Et j'espère vous retrouver pour un autre carnet de route. J'aimerais bien, je vous le rappelle, que vous nous fassiez partager aussi vos carnets de voyage. Où que vous soyez allé, comme je vous le disais, il n'y a pas besoin d'aller loin pour avoir quelque chose à raconter. C'est une rencontre, c'est un nouvel horizon, c'est une disponibilité pour découvrir, rencontrer quelqu'un d'autre. Peu importe où ça se passe, ça peut être des paysages, c'est peut-être des musiques, comme vous le voulez. Faites-nous partager simplement vos sensations par rapport à simplement ce qui n'est pas votre quotidien de tous les jours ici à Genève ou dans la région franco-genevoise dans lequel vous pouvez entendre Onde Femme tous les mercredis de 17h à 22h et Remue Ménage en particulier 17h 18h30. Je vous rappelle qu'à 18h30 c'est les informels de Radio Pleine Lune et à 19h C'est les coups de cœur de Marjolaine dans son agenda de la semaine.
Arrête de pleurer, ma blue. L'argent qui vaut plus un clou. Arrête de dire que t'es toute seule. Ici c'est chacun pour sa gueule. Arrête de rêver que tu déprimes. C'est vrai que tu débordes ton jean. Autour de toi tout le monde s'en fout. Arrête de pleurer, ma bleue.
Regarde les riches, ils sont coiffés comme leurs caniches. Regarde les riches, ils roulent en rôle sur la corniche. Regarde les riches, ils portent pas l'anglais mais l'angliche. Regarde les riches, l'important c'est tout ce qu'ils affichent.
Arrête de chanter, babou. Ce blues des banlieues qui en fout. Arrête de ramener pour personne. Tu vois pas qu'on prend pour une conne. Arrête de lire ici Paris. Faudra retourner bosser lundi. À toi, tout le monde s'en fout. Arrête de chanter, babelou.
Regarde les rues.